Nuit qui se bousculait aux lières dans une nuit de jugement dernier n'était rien de plus que les hommes du nom. Mais ce nom du maquisard obscur collé à la terre pour sa première nuit de mort suffit à faire de ce pauvre gars le compagnon de Jeanne et d'Antigone. L'esclave dit toujours oui. Les gardes de Vichy attaquent au sud du côté de Notre-Dame pour délivrer les leurs et sont repoussés. Le combat s'achève à peine lorsque la BBC transmet le fameux message « Le petit homme casse des tessons de bouteille ». Avant minuit, 30 quadrimoteurs larguent 90 tonnes de matériel. Quand un avion allemand vient en reconnaissance, la vaste neige est encore constellée de parachutes multicolores, le ramassage n'est pas terminé. Le lendemain, Trochenko bombarde une mitraille à loisir, le plateau redevenu innocent, sans grand résultat, sauf celui-ci. Les Allemands savent désormais que le maquis ne possède pas d'armes anti-aériennes. Donc, 5 jours plus tard, reviennent les Hankel et les Stuka. Chalets transformés en torches. Le capitaine Anjou remplace Tom Morel au commandement des Glières. Nouvelle attaque des gardes, de nouveau repoussée. Le 23, bombardement massif. Les Allemands prennent le commandement. Une division alpine de la Wehrmacht arrive à Annecy, assistée de 2 escadrilles de chasseurs et de bombardiers, police allemande, milice vichyste, l'artillerie divisionnaire, les automitrailleuses. En face, le maquis dont nous attendons heure après heure que la radio de Londres nous parle. Entre-temps, de Français à l'écoute, pas un ne sait que ce maquis est un fantôme. Moins de 500 combattants. L'armement qui attend leurs compagnons ne comprend que des armes légères. Contre l'artillerie divisionnaire allemande et les automitrailleuses, pas un canon, pas un bazooka, plus de ravitaillement. Autour, 20 000 hommes. Le premier combat du peuple de la nuit s'engage. Écoutons les dépêches allemandes. Le 24, terroristes font sauter train de renfort allemand devant Annecy. Attaque de la milice au-dessus d'Entremont, sentinelles espagnoles tuées, rejointes par groupes terroristes. Troupes de la milice regroupées à l'arrière. D'artillerie 5, préparation d'artillerie et bombardement d'aviation. Le 26, troupes regroupées, attaque allemande nord stoppée, envoyée aviation, nos mortiers mis en place. Attaque sur 2 points ouest depuis 5 heures. L'attaque générale aura lieu à 11 heures. Ils attaquent en effet de tous côtés. L'avant-poste de la passe d'Entremont, 18 hommes, est attaqué par 2 bataillons. Deux sections de renfort atteignent la passe, le premier fusil mitrailleur sans aile, le second est détruit, son servant tué. L'un des 2 chefs de section, Baratier, a l'impression d'être seul à tirer, il ignore qu'il survit seul. Il se replie en continuant à combattre et prit Harvey et tué. Il défendait la passe depuis 1h30. Les maquisards qui se rabattent vers le centre reçoivent plus vite les munitions et tiennent. Pourquoi l'ennemi s'enfuit-il dans la neige? Parce que 10 minutes plus tard commencent les piquets ininterrompus des Stuka, serrés comme des fers de herse. La nuit va descendre. Le capitaine Anjou combat devant les tombes de Morel et de Decour. L'aviation allemande s'en va, remplacée par le pilonnage méticuleux de l'artillerie. Il fait nuit. Le 27 au matin, les troupes allemandes de l'Est touchent le poste de commandement du maquis, commencent le feu. En face, des crises allemands, poussés par leurs camarades de l'Ouest, les maquisards ont disparu. Ils connaissaient bien le terrain que les Allemands ne connaissaient pas du tout. Angeau a convoqué les chefs de section et ils ont décidé de décrocher. Pendant que tout écoute, attend le pire. Chacun sait maintenant que les glières n'ont ni canon ni avion. Des chaînes de fantômes qui se tiennent par la main dans la nuit pour pouvoir relever leurs blessés lorsqu'ils tombent. Avers la lobe discontinue des troupes d'assaut. Encore leur faut-il arriver jusqu'aux agglomérations de la vallée, où leurs camarades, que l'on appelle les sédentaires, leur donneront asile. Le jour se lève. Alors commence la grande trahison de la neige. Ces insaisissables fantômes dont les Allemands ne rencontraient que des balles et ne trouvaient que des cadavres sont partis avec la nuit. La petite aube dissipe les spectres, dit le proverbe espagnol qu'un des musiciens de l'Èbre cite au capitaine Angeau. Ces ombres, hélas, sont devenues des traces. Les Allemands cherchent le gros du maquis réfugié dans quelque abri de montagne, car ils croient combattre encore des milliers d'adversaires. Mais nombreuses ou non, les traces mènent aux hommes et les sections ennemies occupent les pentes. Le lendemain, le capitaine Angeau et les 6 Espagnols qui combattent avec lui sont tués. De ce qui fut l'épopée des ombres, il ne restera le jour venu que 121 cadavres tués entre les villages, exécutés sur les places ou torturés à mort. Inutile de reprendre l'interrogatoire des blessés, télégraphie la Gestapo, ces débris sont vides. C'est l'heure des représailles. Les paysans suspects de combat avec le maquis sont exécutés ou déportés et l'on reconnaît les hameaux la nuit au porche des chalets qui flambent. Pourtant, si les torturés sont vides, la résistance ne l'est pas encore. Le premier chef est mort, le second chef est mort. Les rescapés organisent d'autres maquis rejoint par des jeunes de plus en plus nombreux. Le gros des unités allemandes est appelé en Normandie. Le 1er mai, les maquis les plus proches reviennent manœuvrer sur ce plateau